Bien, dans la leçon précédente, nous avions vu comment, eh bien, la parole de Dieu a été préservée, même dans les moments les plus sombres et les plus durs de l'histoire d'Israël. Hein, il faut comprendre aussi que, Israël n'a pas toujours vécu selon les lois de Dieu, et que cela a apporté notamment un châtiment assez important à l'encontre du peuple d'Israël avec l'exil babylonien. Mais pendant toute cette période où d'un côté, hein, vous aviez un royaume divisé, le royaume du nord qui était constamment dans l'idolâtrie, pas un seul roi qui était bon, au royaume du sud, un royaume de Juda avec une sorte d'alternance entre bon et mauvais roi, mais toujours hein, ce problème d'idolâtrie qui existait, c'est pour moi un vrai miracle que la loi a pu être préservée, que la parole de Dieu a pu être préservée, et même donc pendant cette période de l'exil et au retour de l'exil, de voir comment ce peuple a retrouvé cet engouement quelque part pour la parole de Dieu, pour la loi. Et que lorsque il était question de se réunir autour de cette parole pour la lire en public, de voir que cela a profondément marqué quand même ce peuple. Mais ce qui nous intéresse maintenant, dans la suite de vos notes, hein, je crois que normalement vous êtes à la page 109, mais pendant toute la période post-exilique, c'est-à-dire le retour hein, du peuple d'Israël à Jérusalem avec la reconstruction de la ville, du temple, etc. Il y a eu un groupe qui s'est révélé très important. Ce groupe, c'était les scribes. C'est ceux qui étaient chargés hein, de retranscrire justement la loi, la parole de Dieu. Et ils ont œuvré donc pour préserver différents documents importants, mais surtout pour préserver la parole de Dieu. Et donc après l'exil, le scribe, il devient un personnage très important dans le paysage religieux du judaïsme, parce que il faut comprendre que pendant toute la période, à partir du retour hein, en Israël avec la reconstruction du temple, de la ville de Jérusalem, eh bien on a ces 400 ans qu'on appelle les 400 ans de silence, où il n'y a pas eu de révélation de la part de Dieu. Il n'y a pas eu de prophète hein, qui ait reçu une révélation divine et qui ait partagé ça avec le peuple d'Israël. Et donc, comme les scribes, déjà eux-mêmes, passaient beaucoup de temps hein, dans les écrits bibliques parce qu'ils étaient en train de les retranscrire, de les copier, ils sont devenus au fur et à mesure, quelque part, des sommités en matière de choses concernant les écritures. Hein, parce qu'avec leur travail de copiage, bah, ils ont acquis une grande connaissance des écrits bibliques. Hein, moi, c'est une chose que je faisais quand j'étudiais, hein, pour essayer de mémoriser les choses, ou même quand il s'agit de mémoriser les versets, c'était de les écrire, hein, de les recopier plusieurs fois, hein, et ça aide à garder les choses en mémoire. Et donc, avec les scribes, on a un peu ce phénomène qui s'est produit, c'est à force de copier les textes, eh bien, ils ont appris les textes, ils ont acquis ces connaissances de la parole de Dieu, et bien vite, la responsabilité des scribes, ça a été ben, l'étude, l'interprétation de la loi, ça a été, ben, pas juste de la loi, mais de l'ensemble des Écritures, et donc on se tournait facilement vers eux aussi pour toutes les questions historiques, les questions doctrinales, et donc c'est eux qui étaient à quelque part aussi chargés d'enseigner les textes bibliques au peuple. Et donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on a les livres de l'Ancien Testament, ceux que nous connaissons aujourd'hui, qui ont été traduits également dans le grec. C'est tout un collège hein, de 70 érudits juifs qui ont entrepris ce travail de... Bon, il y avait déjà eu ce travail de préservation, de retranscription de la parole de Dieu, mais ils ont commencé ce travail de traduction de la Bible de l'hébreu en grec. Et cette version, cette Bible que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de la Septante, hein, c'est lié au nombre de ces érudits qui ont participé à la traduction, n'est-ce pas? Et on imagine très bien que même Paul hein, et les autres apôtres ont certainement pioché ou lu hein, ces versions en grec de l'Ancien Testament, hein, parce que, bon, peut-être, vous l'avez Peut-être vous-même remarquez, souvent, quand il y a des citations de l'Ancien Testament qui sont faites dans les Épîtres, c'est pas forcément les mêmes mots que l'on a dans ces passages de l'Ancien Testament. Et très certainement, c'est parce qu'aussi, bon, ils ont utilisé, hein, ces passages directement du grec, puisque, ben, les Épîtres, les Évangiles, hein, ils ont été essentiellement écrits en grec koiné. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qu'il faut un peu retenir pour tout à l'heure, mais les manuscrits les plus anciens, hein, de cette version des Septante, eh bien, on a des fragments et des parchemins qui datent, eh bien, des premiers et deuxièmes siècles avant Jésus-Christ, même si on sait que cette version des Septante a été écrite bien avant cela. Mais les manuscrits les plus anciens que nous avons donc datent de cette période d'au moins deux siècles avant Jésus-Christ. Alors, je veux parler du travail des copistes. Hein. C'est un travail de précision extraordinaire qu'ils ont accompli. Hein. Les copistes de l'Antiquité, c'est un travail considérable hein, qu'ils ont accompli pour copier tous ces écrits bibliques. Mais ce qui nous aide à voir cela et à comprendre cela, c'est qu'en 1947, il y a eu une découverte extraordinaire. Hein, c'est la découverte des manuscrits de la Mer Morte, hein, dans la région de Qumran, en Israël. Et la manière dont ça s'est passé, c'est, on va dire, complètement anodin. Hein, je ne veux pas dire que c'est par hasard, parce que Dieu ne fait pas de hasard. Mais on a ce jeune berger qui part à la recherche donc d'une de ses chèvres et qui va faire la découverte d'une grotte. Et dans ces grottes, des poteries. Et dans ces poteries, eh bien, des parchemins. Et donc, cette découverte, elle est importante. Parce que, bon, au fur et à mesure hein, qu'ils ont cherché dans le coin, ils ont découvert des milliers de manuscrits. Des manuscrits qui, oui, étaient à divers stades de décomposition. Hein. Certains, c'est vraiment des petits bouts de fragments. D'autres, on sait que, par exemple, je vais en parler un peu plus tard, mais on a le rouleau d'Ésaïe qui était complet, hein, par exemple. Mais voilà, ils ont découvert des milliers donc, de manuscrits. Certains n'avaient rien à voir avec la Bible. OK? Mais beaucoup de ces manuscrits donc étaient des manuscrits bibliques. Et donc quand les historiens ont cherché donc à dater hein, ces manuscrits, hein, ils ont trouvé une plage de date entre le 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc on sait que certains de ces manuscrits-là sont très anciens par rapport à ce que l'on avait jusqu'à ce moment-là. Donc, ces manuscrits hein, de la Mer Morte, eh bien, les historiens pensent que donc c'est un groupe religieux juif qui a cherché donc à préserver ces documents, et c'est certainement en relation avec cet événement important dans l'histoire d'Israël, en l'an 70, la destruction de la ville de Jérusalem par les Romains, et donc il y avait hein, tout intérêt à préserver le plus possible. Donc, ce que nous on appellerait aujourd'hui le patrimoine, mais donc des documents, des écrits bibliques, mais d'autres documents hein, de la vie du peuple d'Israël. Mais ces manuscrits, donc, a été protégé par un groupe, et la plupart des historiens s'accordent à penser que c'était donc ce groupe appelé les Esséniens qui, en 130 avant Jésus-Christ, jusqu'à 58 après Jésus-Christ, vivaient justement dans cette région-là de Qumran, dans une communauté, et ils ont maintenu hein, ce site justement dans le but hein, de préserver la parole de Dieu. Mais les manuscrits de la Mer Morte contiennent pratiquement tous les livres de l'Ancien Testament. Comme j'ai dit, bon, on a des rouleaux complets comme celui d'Ésaïe, on a des rouleaux incomplets, parfois on a des fragments, mais on a retrouvé au moins tous les livres de l'Ancien Testament, à l'exception du livre d'Esther. D'accord? Donc c'était des manuscrits donc en hébreu, hein, qui, jusqu'à ce jour-là, on cherche. Ces manuscrits, ils sont importants parce que le manuscrit, les manuscrits les plus anciens que l'on avait hein, jusqu'en 1947 de la Bible en hébreu dataient du Moyen Âge. Alors c'est quand même une différence de 900 ans. C'est énorme. C'est énorme et c'est d'autant plus important parce que on va voir par la suite que c'est extraordinaire comment hein, la parole de Dieu a pu être préservée. Mais ces textes qui ont été donc étudiés hein, dans ces manuscrits de la Mer Morte, quand on les a justement comparés avec des copies modernes, avec la Bible même que nous avons aujourd'hui, ça a montré qu'ils sont pratiquement identiques. Il y a des variations. D'accord? Mais dans l'ensemble, en prenant hein, les documents des manuscrits de la Mer Morte, en prenant eh bien, les manuscrits qui, jusqu'à ce moment-là, étaient les plus anciens, hein, ceux du Moyen Âge, et de comparer même avec nos traductions modernes, très peu, très très peu de différences dans le texte biblique. Les principales différences qu'il y a, c'était généralement dans l'orthographe de certains noms, dans les nombres ou les chiffres hein, cités dans les Écritures. Alors, pourquoi c'est si important de mentionner cela? Parce qu'on est en train de parler de comment la Bible nous est parvenue, comment elle a été préservée, mais aussi comment on peut avoir confiance que le texte que nous avons aujourd'hui correspond à ce qui a été enseigné, à ce qui a été prêché, hein, il y a de cela des siècles et des millénaires. Donc aujourd'hui, on a plus de 10 000 manuscrits des écrits de l'Ancien Testament. Hein, il y en a 225 en tout cas qui viennent directement hein, des grottes de Qumran, mais on a 10 000 manuscrits à notre disposition hein, des écrits de l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, on en a environ 5 800 hein, en grec. Et pour donner déjà un ordre d'idée de l'importance de ces chiffres-là, c'est que pour des textes, on va dire, de l'Antiquité, ça écrase tous les autres ouvrages de l'époque. Par exemple, si on prend les ouvrages de Platon, là, Platon, on est en train de parler 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, on a 7 manuscrits. Jules César. Là aussi, juste une dizaine de manuscrits de copies. Les œuvres de Tacite, second siècle après Jésus-Christ, 20 copies seulement. Si on regarde au texte écrit par Homère, hein, 8e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est déjà bien ancien. Rappelez-vous, certains des manuscrits de la Septante, on était déjà bien au 2e siècle avant Jésus-Christ. Là, 8e siècle avant Jésus-Christ, seulement 643 copies qui existe. Alors ça montre déjà que, un, les textes bibliques relevaient d'une importance capitale pour les personnes à l'époque, qu'ils aient cherché à préserver ces textes. Mais de montrer que la quantité de documentation, de manuscrits qui est à notre disposition sur les écrits bibliques de l'Ancien Testament et puis même du Nouveau Testament, sont extraordinaires comparés à tout autre ouvrage humain qui date de ces époques-là. Alors bien souvent, justement, c'est l'authenticité de la Bible qui est remise en question par ces critiques, notamment en ce qui concerne la qualité du travail des copistes. Comme je l'ai dit, il y a des variations entre certains textes, certains manuscrits, d'accord? Mais selon les critiques de la Bible, justement, hein, à force de copier un document à travers les siècles, hein, ils estiment que des erreurs importantes auraient pu s'introduire et potentiellement donc changer le contenu ou le sens même du message de ce qu'il y avait à l'origine. Mais voilà. La découverte des manuscrits de Qumran nous montre que les variations qui existent, déjà, elles sont minimes et que ça n'affecte en rien le message biblique lui-même. Entre la version des Septante, hein, c'est version grecque de l'Ancien Testament, les manuscrits de Qumran et les textes d'aujourd'hui, ces différences, comme je dis, sont très relatives, sont minimes par rapport à si on avait vraiment introduit, mais de manière flagrante, quelque chose qui est vraiment pas biblique dans un des manuscrits. Le fait justement d'avoir tous ces manuscrits nous permet de dire, tiens, ça c'est vraiment différent de tous les autres. On va le rejeter. Et d'ailleurs, justement, dans ces manuscrits qui ont été trouvés donc à Qumran dans la mer Morte, il y a, ils ont découvert, si vous voulez, une zone des grottes où il y avait justement des documents qui avaient été découpés. Alors, on ne sait pas, ils ne savent pas si c'est bon, les Romains qui ont découpé ça et puis ils ont cherché à préserver ça quand même et mettre de côté. Ils ne savent pas si c'est eux-mêmes, hein, les scribes, qui ont déterminé que, bah, tiens, non, ça a été une erreur, on a mal copié et puis on met ça de côté. Bref. Ils ont quand même vu qu'il y a certains passages, certains textes qui, parce qu'ils étaient trop différents, bah, n'avaient pas été retenus. Et donc, c'est remarquable, hein, de constater justement que bon nombre de ces anciens rouleaux, hein, correspondent quand même, hein, entre la version des Septante, les manuscrits de la Mer Morte, ou même les manuscrits du Moyen Âge, et ce que nous avons aujourd'hui, il y a une correspondance où on comprend que le message biblique est resté le même. Même si certains manuscrits ont utilisé un mot différent pour décrire la même chose, le message est resté le même. Mais c'est quelque part aussi, quand on avance cette attaque-là, cet argument-là contre le texte biblique, c'est vraiment mal connaître le travail des copistes de l'Antiquité. Et surtout la rigueur, hein, qui s'était imposée lui-même. Alan Millard, qui est un professeur, il est décédé, je crois, cette année ou l'année dernière, qui était professeur émérite d'hébreu et de langue sémitique ancienne à l'école d'archéologie de classique et d'égyptologie à l'université de Liverpool, lui-même n'a cessé de souligner l'importance de bien comprendre le soin employé par les copistes de l'Antiquité, qu'ils soient juifs ou païens. Parce que là, l'attaque, c'est, oh oui, les copistes juifs, ils ont dû faire des erreurs et on peut pas être certain que ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment, hein, la révélation divine. Et donc Millard a justement démontré que même en dehors de la transcription biblique, les scribes de l'Antiquité apportaient en général un grand soin à copier fidèlement les textes dont ils avaient la charge, et surtout ceux, bah, dont la motivation allait au-delà d'un simple travail. Hein, s'il s'agissait juste de, bah, on va recopier la facture d'un tel pour les archives, c'était pas juste un simple travail. Ces personnes-là étaient conscientes de l'importance des documents qu'ils étaient en train de copier. Ainsi, un manuscrit datant de 600 ans avant Jésus-Christ, qui contenait une prière babylonienne adressée à la déesse Ishtar, fut comparé à un autre manuscrit qui contenait cette même prière. Mais ce manuscrit-là, lui, datait de 1400 ans avant Jésus-Christ. Il était donc plus ancien. Les deux documents étaient identiques. Donc il a su démontrer que c'est pas juste les scribes, les copistes juifs qui ont fait un grand travail et un travail considérable pour s'assurer de bien copier les choses. C'était quelque chose que dans l'Antiquité, eh bien, cette fonction de scribe, de copiste, elle était importante et il se donnait, hein, vraiment les moyens et faisaient beaucoup d'efforts pour retranscrire avec fidélité les documents dont ils avaient la responsabilité. Donc là, justement, sachant que les scribes juifs portaient une très haute estime du texte biblique, c'est quelque chose pour lequel ils vivaient. Hein, c'était le Dieu d'Israël, c'était la parole du Dieu d'Israël, hein, ils étaient conscients de cette chose-là, et donc, avec ça, on peut déduire avec confiance qu'ils ont justement fait tous leurs efforts pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pour qu'il n'y ait pas de rajout, pour qu'il n'y ait pas de déduction, hein, qui se produise. Et justement, cette découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947 a montré que Eh bien, dans l'ensemble, en comparant, eh bien, tous ces manuscrits qui sont à notre disposition, on voit une continuité dans le message biblique, avec certes, dans certains manuscrits, des variations, mais qui n'ont rien changé au message que Dieu a confié à ses auteurs à travers les siècles. On va s'arrêter là pour ce soir, et donc la prochaine fois, on va regarder justement à la fiabilité du Nouveau Testament, et regarder là aussi donc les manuscrits hein, qui existent concernant le Nouveau Testament, et regarder à certaines des objections que les critiques de la Bible ont hein, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui dans nos Bibles. Donc par la grâce de Dieu, donc mardi prochain, nous verrons ces choses, et nous verrons que là aussi, Dieu a su préserver sa parole et qu'on a suffisamment d'éléments à notre disposition pour accepter que le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Pour accepter que les évangiles, tels qu'ils nous ont été rapportés, eh bien, ils nous décrivent vraiment la vie de Christ, mais aussi ses paroles. Et donc ça, hein, c'est les choses que nous verrons la semaine prochaine, Dieu voulant.